Vous écoutez Delirium Environnemental, le magazine radio d'information en environnement. Je vous rappelle que vous pouvez trouver une foule d'informations sur notre site Internet qui est au www.radiodelirium.net et qu'à partir de ce magnifique site Internet conçu par Étienne Côté-Paluc en personne, vous pouvez vous inscrire à la cyberlette en cliquant sur cyberlette à gauche de l'écran. On va parler d'industrie, mais avant même de parler d'industrie, puisque ça va les concerner directement, on va parler des mécanismes. Parce que donc, si on se fixe des objectifs, on doit se doter de moyens pour atteindre ces objectifs dans la vie, comme au travail et dans les loisirs. On doit se fixer des objectifs. Et donc, on s'est fixé des objectifs, on doit donc se doter de moyens. Je m'excuse, c'est ce que je voulais dire. C'est compliqué. On parle d'échange de crédit de carbone, de ceux qui ont de l'argent peuvent acheter des permis pour polluer. Il y a encore un petit peu, je pense que c'est quand même assez complexe. Pour nous en parler, Nicolas Milot.
Oui, effectivement.
Bonjour.
Regardez, il y a pour chacun, dans le fond, les Nations Unies ont fixé des objectifs. Repose à chaque pays le mandat sur leurs épaules immenses ou des épaules plus petites, dépendamment des pays, de trouver des moyens de réaliser ces objectifs-là. On s'entend principalement sur trois types de moyens pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La première, et c'est celle du gros bon sens, c'est d'aller cogner à la porte d'une industrie puis lui dire « Madame, l'année prochaine, vous en mettez... » J'ai dit « Madame » parce que c'est une industrie.
Ça peut être un monsieur.
C'est une industrie. Donc, vous allez diminuer de 20% vos émissions l'année prochaine. Et rien de moins. C'est ce qu'on pourrait appeler l'approche du bâton. Donc, l'approche de « T'es gentil, sinon on tape parce qu'il y a une punition au bout. » Deux minutes... pour ne pas avoir réduit ses émissions de gaz à effet de serre.
Donc, l'approche bâton. J'imagine que si on a une approche bâton, il y a une approche carotte.
Souvent.
Carotte.
Et c'est là qu'on rentre dans un autre univers de moyens pour atteindre les objectifs de Kyoto. Premièrement, il y a celui qu'on appelle de l'amélioration. Et l'amélioration ne doit pas nécessairement avoir lieu chez soi. Donc, par exemple, l'usine qui doit avoir 20% de réduction se dit « Moi, j'ai déjà fait beaucoup d'efforts. Il m'en coûterait très cher de réduire mes émissions. » Donc, je vais aller, en tant qu'industrie canadienne, payer une industrie au Burkina Faso qui, elle, a la possibilité, encore une marge de manœuvre moins coûteuse pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ce qu'on s'entend, c'est le principe de l'important, c'est de réduire ici ou ailleurs, mais réduisons. Donc, c'est un deuxième mécanisme que des industries d'ici aillent payer des industries régulièrement dans des pays en voie de développement pour qu'elles réduisent. Et le dernier principe, qui est sans doute le plus complexe de la gang, c'est de se dire, il y a des pays qui vont atteindre leurs objectifs et qui vont même les dépasser. Par exemple, un cas classique qu'on explique, c'est la Russie. La Russie, en 1990, était dans les derniers élans de l'ère communiste où les usines roulaient à pleine vapeur. Donc, en 90, beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, on en a beaucoup moins. Donc, la Russie a pratiquement déjà atteint ses objectifs, même les a dépassés. Donc, avec la marge de gaz à effet de serre qu'on a, dans le fond, en réserve, on est des tellement bons... pas vraiment tous qui sont bons, ne prenez pas ça, c'est sarcastique. Mais bref, ces surplus-là ont une valeur. Eh bien, des pays qui ont de la difficulté à atteindre leurs objectifs pourront acheter ces surplus-là aux pays qui dépassent les objectifs.
Mais là, quand tu me parles d'acheter, est-ce que tu veux dire qu'il y a une transaction financière qui est impliquée?
Tout à fait. On évalue actuellement sur les marchés boursiers à 10 $ la tonne.
10 $ la tonne équivalente de CO2. Vous savez qu'il y a 6 gaz à effet de serre qui sont contenus dans le protocole de Kyoto, le CO2 étant le principal, non pas en puissance d'effet de serre, mais bien en quantité. Ces gaz-là, on peut les nommer rapidement.
Oui, c'est le CO2, le méthane, qui est sans doute le deuxième gaz le plus important, mais qui lui a un effet, je crois, 20 ou 21 fois plus important que le CO2. Il y a l'oxyde nitreux, les hydrofluorocarbones, les hydrocarbures perfluorés et les hexafluorures de soufre. Je suis en sociologie, mais c'est pour ça que ça sonne un peu mal, désolé.
Changez pas de poste, là.
Donc avec cette tonne d'équivalent CO2, on a fixé un prix qui va probablement varier, probablement même augmenter dans les années qui viennent, puisqu'on a créé un marché d'échange de crédit de carbone. Donc avec ce marché-là, on est en train déjà d'établir une espèce de relation entre les entreprises entre elles et entre les pays entre eux. Ce qui est intéressant, c'est le fait qu'une compagnie va être beaucoup plus incitée à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre puisqu'elle va pouvoir vendre ses crédits si elle réussit à passer sous le seuil qu'on lui avait fixé. Le gouvernement canadien, ici présent, dit aux industries, OK, vous devez réduire de 15%, par exemple, vos émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 90. Si, mettons, une aluminerie réussit à réduire de 20%, Donc, elle a 5% de marge de manœuvre qu'elle pourra maintenant négocier à l'international ou au Canada, vendre ces crédits-là au coût de 10$ la tonne CO2 équivalent pour que ceux qui sont trop polluantes les achètent et se retrouvent à arriver à leur seuil, à leur quota.
Qu'est-ce
Donc,
que...
toute la question, c'est justement ces quotas-là. Qui est-ce qui fixe ces quotas-là?
Bonjour.
C'est évidemment les pays qui sont en charge de fixer les quotas aux industries. Et c'est pour ça que depuis quelques semaines, on entend toutes les négociations, on entend parler de ça, toutes les négociations en arrière, dans les coulisses du Parlement fédéral. Est-ce que le Canada va être capable d'oser fixer des quotas audacieux pour les industries? Et puis, ce qu'on entend parler, c'est évidemment qu'ils ont la chienne.
Ils
chisent dans leurs culottes. Et ça, c'est vraiment, non pas sur surprenant, mais désolant de voir qu'on est rendu à un tel point soumis à la pression des lobbies industriels.
Et ce qui est important de mentionner, c'est que ces grosses entreprises-là qui polluent beaucoup, qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, c'est essentiellement ceux qui produisent le pétrole, en Alberta entre autres, et ceux qui produisent les automobiles. Et ce qui arrive, c'est qu'en même temps, les industries qui, depuis 10 ans, ont déjà commencé à prendre des moyens pour atteindre des objectifs futurs de Kyoto, eh bien, ce ne sont pas ceux-là, c'est ceux des autres secteurs économiques. Par exemple, le secteur manufacturier a déjà fait beaucoup d'efforts. Donc, ce qui arrive, c'est que si en plus, on a un gouvernement qui refuse de demander à ceux qui n'ont pas fait d'efforts encore, dans le fond, on leur demande de rien faire, c'est que la charge d'atteindre les objectifs du Canada va reposer sur les autres qui ont déjà fait des efforts, qui souvent ne sont plus capables d'aller plus loin. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut plus faire plus que ce qui a déjà été fait. Et donc, il y a un non-sens. Le principe du responsable doit agir ne tient pas présentement au Canada.
D'où ma nouvelle. Il faut que je vous plug une nouvelle. Écoutez, on apprenait... c'est le fun d'en parler, mais c'est tout à fait d'actualité. Puis vendredi dernier, on apprenait qu'Ottawa a officialisé son intérêt à acheter des crédits étrangers pour respecter Kyoto. Mm-hmm. Donc, on parlait de l'intérêt que les entreprises fassent ça. Mais là, M. Dion, notre ministre de l'Environnement au fédéral, a officialisé le fait que Ottawa envisageait d'acheter ses crédits de carbone sur le marché international. Ce qui est désolant puisque on se retrouve avec le Canada qui utilise nos fonds publics, l'argent des contribuables, pour aller financer des projets de développement durable et d'énergie propre dans d'autres pays au lieu d'investir ici. Puisque ici, la compétition avec nos industries est trop grande et l'influence de notre industrie est trop grande. On n'est pas capable de le faire. Donc, évidemment, c'est une nouvelle qui est désolante. Et Bernard Bigras, responsable du dossier environnement au Bloc québécois, a carrément sauté...
sa coche.
pété sa coche, tombé en bas de sa chaise, grimpé dans les rideaux.
Et
voilà. Il est plus au bout.
Avec raison.
Mais d'ailleurs, c'était ma question, parce qu'avec l'explication sur comment fonctionnent les quotas, comment est-ce qu'on peut racheter des crédits, etc., est-ce que, d'après vous, là, je m'adresse à Nicolas Milo et Nicolas Mainville, là, d'après vous, là, c'est pas une espèce de façon détournée de... Je sais pas, c'est comme des incitatifs mous un peu, non?
Oui, puis non. Si je peux me permettre de prendre position. C'est que la question des changements climatiques est globale. On s'entend qu'une réduction de gaz à effet de serre au Burkina Faso ou au Canada a la même influence sur le climat. Donc, on considère qu'on vit sur une planète fermée, puis les efforts partout sont des efforts de même qualité. Ce qui est intéressant, et ce qui était mentionné par Hugo Séguin, qu'on en a entrevu un petit peu plus tard, qui est responsable des communications à Équiterre, nous disait, écoutez, on a une opportunité d'investir dans des projets dans des pays en voie de développement qui coûtent beaucoup moins cher qu'ici, mais qui ont les mêmes résultats point de vue émissions de gaz à effet de serre, ce qui est intéressant. Reste à savoir si on va focusser seulement là-dessus, j'allais dire only, wow, imagine, ou on va peut-être faire moitié-moitié, on ne sait pas encore. Le plan du Canada n'est pas connu en ce moment. Et M. Goodale devrait nous annoncer le plan, en fait le budget, le 23 février prochain. Et c'est probablement là qu'on va voir les argents investis par le fédéral, point de vue Kyoto. M. Milo?
Oh, M. Milo va attendre sans commentaire.
Il faut savoir que pendant qu'on parle, on parle beaucoup du protocole de Kyoto, on va faire des beaux efforts, le gouvernement, de la population, l'industrie. Eh bien, il faudrait peut-être se remettre à penser justement à certains projets qui ont cours présentement, je pense à Bécancour, pas parce que ça rime, mais parce que c'est ça.
On parle de la centrale au gaz de Bécancour qui est en pleine construction en ce moment.
Exactement. Donc, et qui va ajouter, donc celle-là plus l'achat pas d'hydrocarbures, mais je m'excuse, d'une centrale thermite. Hydro-Québec qui vise à acquérir 800 MW d'électricité de source thermique. Ça va ajouter avec Bécancour 2 millions de tonnes de gaz à effet de serre, soit l'équivalent de 500 000 voitures sur les routes du Québec. Fait que c'est facile un peu d'un côté pour un gouvernement de parler puis de regarder, c'est presque de la publicité environnementale qui se font, puis d'un autre côté, ils prennent des décisions stupides. Vous êtes de retour à Delirium environnemental, une émission spéciale. Je m'excuse, on se sent un peu comme des enfants à la veille de Noël. Que voulez-vous? Kyoto, nous, ça nous fait de l'effet, beaucoup. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle, puis enfin, ça se passe. C'est le fun de voir ça, même si, bon, ben, il y a beaucoup de critiques à émettre en regard du protocole de Kyoto et des engagements qu'on s'apprête à prendre ou à ne pas prendre ou à prendre de façon mollassonne. Petite nouvelle concernant le protocole de Kyoto, Nicolas Mainville.
Bien, puisqu'on est dans le fameux dossier des émissions de gaz à effet de serre, des crédits de carbone et tout ça, je voulais juste vous parler d'une initiative. On en avait parlé point de vue états-unien, puis maintenant ça sort en Europe. C'est des ONG, des organisations non gouvernementales, qui proposent aux usagers du transport, des transports en général, de leur automobile et surtout du transport aérien, proposent aux usagers de compenser volontairement leurs émissions de gaz à effet de serre en ligne. Donc, il y a un site Internet qui est créé. Là, je vous parle d'un exemple ici. Ça s'appelle co2solidaire.org. Là, vous allez là-dessus. Et puis, puisque vous vous sentez coupable parce que vous émettez des gaz à effet de serre, vous pouvez aller sur le site et envoyer la modique somme de 45 euros par tonne de CO2 que vous émettez. Vous pouvez calculer les tonnes que vous émettez.
Ça va servir à quoi, ces belles argents-là?
Ben, ces argences-là sont envoyées dans les programmes d'énergie renouvelable, des projets de développement durable à gauche et à droite.
Hey, c'est fou, hein? L'argent achète vraiment tout.
Ben, c'est quand même assez intéressant comme programme, puisque bon, ça stimule en plus la sensibilisation des gens. Et le site Internet est relativement bien fait. C'est-à-dire, si vous prenez l'avion, vous faites Montréal-Paris, on vous dit, ah ben, vous avez émis 1,8 tonnes de CO2 et vous devrez, si vous voulez compenser ces tonnes-là, donner 45$ à l'organisme CO2 solidaire qui se fera le plaisir de le distribuer dans d'autres organismes.
C'est investir dans des banques. Caïman, excusez-moi.
Voilà.
Donc, bravo, on peut faire la pièce là.
CO2solidaire.org, ça vous tente.
On ira voir ça. Donc, on parlait des mécanismes de crédit autres que personnellement aller voir vos consommations, plutôt vos émissions de CO2 sur ce site Internet-là. Il y a toute la question des quotas, des crédits et vous avez rencontré
Alain Webster. Alain, si je me souviens bien.
Professeur à l'Université de Sherbrooke, qui est économiste.
Et qui enseigne en économie de l'environnement. Bon, c'est peut-être deux mots qu'on a de la difficulté à mettre dans la même phrase,
et pourtant,
surtout quand on a la fibre verte, mais bon, il reste que c'est une réalité qui est... Non, c'est ça. Mais on a cette idée et qui est de plus en plus mise de l'avant par les gouvernements, par les industriels aussi, de cette idée que les principes économiques s'appliquent à l'environnement et notamment à la question des changements climatiques. Mm-hmm. Maintenant, j'ai demandé à M. Webster, suite à bon, le futur marché ou l'actuel marché qui est déjà en train de se mettre en branle au niveau des échanges de permis d'émission de tonnes de carbone, eh bien, est-ce qu'il n'y a pas des effets pervers? Est-ce que ça ne peut pas créer certains effets auxquels on ne s'attend pas du tout, qui vont à l'encontre de tout le bien fondé que ces crédits de carbone devraient avoir?
Dans la question de la mise en œuvre du protocole de Kyoto, il va se poser la question des permis d'émission échangeables émis pour les grands émetteurs industriels. On dit souvent que c'est des droits de polluer de façon un peu péjorative, et il ne faut probablement pas le voir comme ça, parce qu'ils ont déjà, à travers la réglementation, le droit d'émettre, ça ne leur coûte rien. On change la dynamique et on leur dit, ces gaz à effet de serre, ça a un coût. contre, ça vaut quelque chose. On les valorise. Ça vaut environ, sur le marché américain, 10 $ la tonne. Donc, on pense qu'en imposant ces coûts-là aux industries, ça va les amener à gérer ça de façon plus rationnelle et tenter de les économiser éventuellement, ces droits-là, pour pouvoir réduire leurs coûts de fonctionnement. Donc, c'est un instrument qui devrait provoquer des changements technologiques importants. Ça peut être extrêmement intéressant. Ce à quoi il faut faire attention, évidemment, dans la mise en œuvre de ce système-là au Canada, c'est de ne pas s'en servir uniquement pour atteindre l'objectif et accorder des droits de pollution aux entreprises, donc des droits d'émission aux entreprises qu'on ira acheter à l'étranger, mais c'est de réussir à s'en servir pour amener des changements technologiques auprès des entreprises, donc les amener éventuellement à incorporer ce nouveau coût dans leur coût de production. Donc, il faut se servir de ça pour provoquer un changement technologique et pas seulement atteindre l'objectif du protocole de Kyoto. En 30 secondes.
Posez la question. En 30 secondes, c'est Alain Webster de l'Université de Sherbrooke, professeur à l'Université de Sherbrooke, économie environnementale.
Quelque chose dans le genre.
Qui a fait une très bonne présentation au colloque sur les changements climatiques qui se tenait à la Biosphère ce mardi 15 février, organisé par le Centre québécois d'action sur les changements climatiques.
.qc.ca pour ceux qui veulent trouver l'adresse.
Changement climatique avec des S.qc.ca.
Exactement. Tout à l'heure, on parlait et on parle toujours et on en reparlera du protocole de Kyoto, de changement climatique, etc. Pour ce qui est, en ce qui a trait au protocole de Kyoto, on disait donc qu'il y a une série d'acteurs, nous sommes tous et chacun concernés, mais il y a des catégories d'acteurs. On a parlé des pays, de ce que les pays pouvaient faire. On a parlé un peu de l'industrie, ce que les industries pouvaient faire, ce qu'il y avait comme type d'outils à leur disponibilité pour atteindre les objectifs de développement durable, non, du protocole de Kyoto. Et puis maintenant, on va parler de la question des villes, parce qu'on sait que l'organisation urbaine, l'aménagement urbain, le type de service qui est offert, le type d'incitatif à la construction qui est offert en milieu urbain ou périphérique, peuvent nous permettre ou pas d'atteindre les objectifs du protocole de Kyoto. Dans ce sens-là, encore cet après-midi, donc le mardi 15 février, vous avez eu la chance de rencontrer M. Vaillancourt de Vivre en ville et qui vous en a parlé plus amplement.
Ben oui, en fait, j'ai demandé à M. Vaillancourt, parce que vous savez, juste en mettre en contexte, la Ville de Montréal est en négociation, en fait, a fait une semi-proposition de plan de développement durable qui devrait sortir en avril.
Ne te découvrez pas d'un fil, c'est en mars. Et en passant, c'est Jérôme Vaillancourt et non pas Monsieur, tout simplement.
Ah, d'accord.
Jérôme Vaillancourt, qui est directeur général de Vivre en ville, un organisme qui travaille justement à la durabilité des villes. Et je lui ai posé comme question, ce qu'il pensait de ce plan de développement durable, est-ce que ça va pouvoir permettre d'atteindre les objectifs de Kyoto ici à la Ville de Montréal? Alors, on écoute M. Vaillancourt.
Alors, le plan, c'est sûr que c'est une bonne initiative pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'au moins, ça prouve que les villes, comme la Ville de Montréal, peuvent s'impliquer, a des moyens, des outils pour aller de l'avant dans la réduction des gaz à effet de serre. Donc, c'est un premier bon pas, c'est certain, mais je pense que peut-être que c'est un meilleur pas en termes de qualité de vie. Je pense que les Montréalais et Montréalaises vont en retirer encore plus d'avantages en termes de qualité de vie qu'en termes de réduction des gaz à effet de serre, parce que les efforts devraient être encore plus grands de la part d'une municipalité pour vraiment réussir à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
On vient d'entendre M. Jérôme Vaillancourt, le nom complet, M. Jérôme Vaillancourt, voilà. Donc de l'organisation Vivre en ville, parce que justement Montréal, mais toutes les autres villes, en tant qu'entité, pas humaine, mais en tant qu'entité, peuvent être des acteurs tout à fait déterminants dans les politiques, plans et programmes desquels ils se doteront. C'est toujours une affaire de politique publique, ces histoires-là environnementales, finalement.
Et il faut remettre ça dans un contexte un peu plus global sur la question des transports, puisque, bon, les villes ont un rôle à jouer majeur sur la question des transports, sur aussi le choix pris par les villes en tant que type de transport promu. Et puis, lorsqu'on voit des projets comme l'autoroute 25 proposée par le gouvernement provincial qui ferait le lien entre Laval et Montréal, prolongement de l'autoroute 25, évidemment, on voit l'importance qu'a les villes dans ces dossiers-là.
Et rappelons que vient de naître une autre merveilleuse coalition, peut-être faire de l'année 2005 l'année faisant tomber la 25 après la 2004, l'année faisant tomber le Suroît, eh bien, une coalition qui est née, menée principalement par le CRE Montréal, André Porlier, entre autres, responsable au CRE Montréal, très impliqué, le Conseil régional en environnement de l'île de Montréal. Donc, une coalition mise en œuvre, vous pouvez aller sur le site du CRE Montréal qui sera accessible via notre site le www.radiodelirium.net. Et ce projet, rappelons-le, qui vise à faire un lien routier entre l'est de Montréal et l'est de l'Île-Jésus, l'île de Laval. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se contente pas juste de chialer, mais on donne des exemples concrets de pourquoi ce projet-là n'a pas de sens. Augmentation de 150 000 nouveaux déplacements en automobile par jour ne suffira pas à décongestionner le réseau routier. Souvenez-vous, quand on a construit la 13, c'était pour décongestionner la 15. Ça n'a pas marché. Un pont privé ne se rentabilisera qu'avec l'augmentation de la circulation automobile, pas en réduisant la circulation automobile.
Ça, c'est les 10 bonnes raisons pour...
6 bonnes raisons pour s'opposer à la 25 ou encore pour adhérer à la coalition. Il y en a 3 autres. Je vous laisse aller voir ça. Notre revue de presse les contient. Mais bref, c'est une idée qui ne fait absolument aucun sens et comble de, mon Dieu, de stupidité chez notre gouvernement. Le jour même, la veille même de l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto, on nous annonce un autre projet d'autoroute, la 50, au nord de Mirabel, dans un coin, mon Dieu, qui est, on ne peut plus, pas achalandé que présentement, avec Mirabel qui a fermé. C'est un non-sens et en même temps, on nous propose des plans de développement durable. Je pense que, présentement, il n'y a aucune règle autre que l'opportunisme politique chez ce gouvernement-là. Désolé, mais on n'est pas encore rentré dedans de l'émission, puis il était temps.
Il faut comprendre que chaque dollar investi dans une autoroute est un dollar non investi dans les transports en commun et c'est assez dramatique. D'autant plus que lorsqu'on regarde les habitudes de consommation des Québécois par rapport aux véhicules qu'ils achètent, des nouvelles statistiques sortent en ce mardi 15 février sur à quel point les Québécois sont de plus en plus portés sur la grosse chose, étant les gros chars. Ah. On aime ça gros de plus en plus et volumineux. Et vous savez que les SUV, ces véhicules sport utilitaires ou les VUS, si vous voulez les appeler comme ça, c'est des véhicules qui consomment énormément d'énergie. On parle de qu'ils émettent 70% plus de gaz à effet de serre que le véhicule conventionnel, dont du méthane et du protoxyde d'azote, le N2O, qui contribue à la formation du smog. Vous vous rappelez des épisodes de smog? Eh bien, ces fameux véhicules utilitaires sport, les ventes ont augmenté de 20% sur les routes québécoises entre 1998 et 2003. Quand même.
C'est surprenant.
Comparé à 8,6 d'augmentation pour les autres types d'automobiles.
Mais je pense que quand même, il va y avoir un changement tellement profond dans les mentalités qui va s'opérer que les gens vont se mettre à se sentir mal, je pense, d'avoir des 4x4 en ville. Puis je suis sûre, moi j'ai entendu des gens, oh oui, je m'excuse, quand je l'ai acheté, je savais pas, nanana.
Mais donc, on l'espère, hein. Puis tout à l'heure, on parlait d'urbanisme. Il y a des études qui prouvent assez facilement, dans le fond, c'est pas compliqué de faire une étude dans ce style-là. On prend un galon à mesurer, puis on mesure la grosseur d'un SUV. Puis la grosseur d'une écho ou peu importe, tous les espaces perdus au centre-ville de Montréal en stationnement, tous les problèmes liés au stationnement au centre-ville et tout le tollé que fait la seule petite phrase « on va réduire le nombre de stationnements automobiles dans le centre-ville de Montréal », s'il n'y a pas de SUV à Montréal, on règle pratiquement le problème dans sa totalité. On gagne l'espace, on a des véhicules moins polluants, on désengorge le centre-ville, puis on n'a plus de maudit cave qui bloque Saint-Laurent l'après-midi avec son gros Hummer.
Parqué en double.
C'est-tu une
histoire? Les Hummers, c'est assez traumatisant. Hein?
Mais je veux juste rappeler une statistique qui est encore plus inquiétante. Sur l'île de Montréal, seulement la moitié des nouvelles voitures immatriculées en 1998 et 2003 étaient des SUV. La moitié nouvellement immatriculés. Donc, on parle d'une progression de 27% en 5 ans. Faut se questionner. Écoutez, on parle des gens qui se sentent coupables, mais définitivement, il y a des gens qui se sentent pas coupables par rapport à ça. Ceux qui nous écoutent en ce moment, je voudrais vous rappeler que nous sommes tous responsables de cette question des changements climatiques. Donc, ça nous a fait plaisir de plugger ces statistiques-là pour que vous sentiez plus coupables.
Non, mais nous sommes tous responsables des changements climatiques. Pour tous ceux qui veulent agir à leur niveau, je vous invite à aller voir le site d'Équiterre, www.equiterre.org, parce qu'eux mettent de l'avant la phrase suivante, on change le monde tous les jours. Non, on change le monde un geste à la fois. Ça, c'est nous, là. Donc, Équiterre, puis aussi le défi d'une tonne, bien entendu, pour réduire ses gaz à effet de serre, s'engager à relever le défi d'une tonne, qui est réduire d'une tonne ses émissions de gaz à effet de serre. Mais moi, je répète, c'est des choses qui sont importantes, qui sont intéressantes au niveau citoyen, mais n'oubliez jamais votre pouvoir de citoyen d'interpeller les pouvoirs publics pour leur dire, écoutez, moi, la qualité de l'air, ça m'intéresse. Moi, la question des changements climatiques, ça me préoccupe, ça m'inquiète. Il faut agir dans la bonne direction. Individuellement, oui, mais collectivement aussi.
Et il y a plusieurs façons de se manifester, puis je pense que un groupe d'environnement jeunesse en jeu, c'est très bien manifesté cette semaine en prenant leur vélo et en partant de Montréal, de Sherbrooke et de Saint-Jean-sur-Richelieu directement vers Québec, 300 km pour aller demander aux députés à l'Assemblée nationale, écoutez, il faut que Québec se dote d'un plan Kyoto. Vous savez que on n'a pas de plan Kyoto au Québec. On en avait un, mais il était daté 2000-2002. Et comme vous le savez, on est en 2005. Alors que les éco-cyclistes sont allés directement demander de favoriser la géothermie, l'énergie éolienne, réviser les normes de construction pour encourager l'architecture verte, donc différents sujets. On salue l'événement.
Ah, on vous salue.
Eh bien, moi, j'en profite pour faire une petite intervention, peut-être à caractère social un peu, parce que le moment Kyoto, le 2005, ce février, ce 16 février, c'est peut-être aussi un moment intéressant pour que se renverse l'espèce d'attitude où est-ce que nos gouvernements, eh bien, notre démocratie, c'est un représentant qui représente un représenté, et le représenté ferme sa gueule. Je suis un peu drastique dans mes propos.
Oui.
Mais c'est un moment intéressant pour que, justement, cette tendance-là que nos gouvernements, et je n'oserais pas nommer le gouvernement Charest actuel, essaient d'imposer et essaient de faire en sorte que ce soit la règle, eh bien, le citoyen est un citoyen en tant que consommateur responsable, mais est aussi un représenté qui a le droit, des fois, de rappeler à son représentant qu'il se trompe. Et bon, je vous demanderai pas de sortir dans les rues. Faites-le.
Hey yo, pas de farce là, pas de 4x4 dans le 5x4. Hey toi, dans ton gros SUV,
dans ton suburban, t'es pas urban.
T'as-tu pas des nipples? C'est toi qui crevis de boboules.
Dans ton suburban, t'es pas urban.
Hey yo, combien de millages tu fais au galon? Dans ton camion, t'as George Bush à s'acheter des canons. Tu nous empestes avec tes émissions, des particules en suspension. Hey champion, pense-donc un peu aux autres générations.
Hey yo, t'as payé une maladie dans les poumons. Ta femme est stressée dans un bouchon. Ton fils s'est fait frapper par un soulon dans un Yukon. Toi, t'es le plus gros que mon salon, gâteau vachon.
Alors, comment ça se passe sur les routes, là, ce soir?
Eh bien oui, Jules. Même si le prix de l'essence a monté, nos autoroutes restent bloquées.
C'est quoi tu veux, là? Bâtir des ponts? Des autoroutes en tronçon? T'es con, c'est pas une solution.
Le gouvernement ne donne pas d'option.
Restons.
Hey yo, j'ai des statuts à l'appui, ça s'appelle du trafic induit.
Fait que j'espère qu'on s'est fait clair avec tous les propriétaires. C'est vous qui polluez la terre avec vos gaz à effet de serre.
Dans ton suburban, t'es pas urban.
Mets ton camion à maison, mon frère.
Dans ton suburban, t'es pas urban.
Ça a pas de bon sens, il faut en parler au maire.
Dans ton suburban, t'es pas urban.
Mets ton camion